Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï. Nous sommes en direct de la Marina, en plein cœur de Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire, et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï. Celle des Français qui y réussissent dans tous les domaines. La restauration, la mode, l'immobilier, les technologies et plein d'autres. Avec l'exposition universelle 2020, ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai l'intuition que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous inspirer pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter l'aventure. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque et auteure du site lawfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Corsi, fondatrice de la marque déco et enfants Caramel & Son. Bonjour Olivia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma première invitée sur le podcast à Dubaï, Histoire de Dubaï. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Alors, je m'appelle donc Olivia. Je suis maman de deux petites filles, Stella et Romy. Et je suis arrivée il y a maintenant presque 12 ans à Dubaï avec à l'époque mon boyfriend qui aujourd'hui est mon mari et le père de mes deux petites filles.
D'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer dans quelles circonstances tu es arrivée à Dubaï ? C'était une offre d'emploi ?
Alors non, en fait, à l'époque, je travaillais en Angleterre et Chris, donc mon mari, travaillait à Paris. Et c'est lui, en fait, qui a eu une offre d'emploi. Ne sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, je lui ai dit « Écoute, vas-y d'abord et je te rejoindrai ». Et voilà, et en fait, je l'ai rejoint une petite année après. Et voilà, et c'était donc en 2007, c'est ce que j'appellerais la belle époque où tu es arrivé et en 3 semaines, tu trouvais un job, quoi.
D'accord.
Voilà, donc non, c'était assez, c'était une chouette époque, ouais.
Donc tu es arrivée et tout de suite tu as postulé.
Voilà, donc je suis arrivée, j'avais qu'une idée en tête, c'était surtout travailler. Enfin, j'avais vraiment peur. J'arrivais dans un endroit que je connaissais pas, je connaissais personne. Donc ça a été vraiment ma première initiative de trouver un job, un boulot.
Parce que tu avais quitté ton job en France.
Tout à fait, ouais, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque j'étais jeune et j'avais 24 ans, oui, et voilà, j'étais déjà lancée après mon école de commerce. Donc c'est vrai qu'à l'époque on était encore dans un mindset où le trou sur le CV n'est pas toujours très bien vu. Et puis en fait très rapidement voilà, j'ai rencontré plein de personnes et puis j'ai fait passer mon CV d'une personne à une autre et à l'époque j'ai été contactée par le groupe Chaloub où voilà, j'ai trouvé un poste assistante marketing chez Coty, voilà.
D'accord. Et après, tu as été chez Estée Lauder, si je ne me trompe pas, voilà. Régional Marketing ouais. Manager.
Exactement, donc des parfums, je suis passée au cosmétique et au maquillage. C'était l'année de mon mariage, quand Estée Lauder m'a contactée. Alors, je ne voulais surtout pas y croire, parce que j'avais qu'une envie, c'était de me la couler douce. L'année de mon mariage. Je préférais les tableaux Excel avec ma wedding planner que les tableaux Excel d'un PNL. Et en fait, voilà, je suis allée assez décontractée à cet entretien. Ça s'est très bien passé. Le monde étant très petit, la personne qui m'a embauchée, recrutée, que j'adore, est en fait une ancienne école de mon école de commerce,
ouais.
qui est devenue ma boss à l'époque. Et voilà, et j'ai été embauchée en tant que marketing manager pour la région du Golfe, et ça a duré presque 5 ans. Ouais. Voilà.
Ok. Et du coup, comment on passe de Estée Lauder à l'entrepreneuriat ?
Alors, bonne question. en fait, c'est marrant parce qu'on parle souvent d'un virage.
Ouais.
Pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'avais dans les tripes, que j'avais dans le sang.
Avant ton arrivée à Dubaï, même.
Avant mon arrivée à Dubaï, en fait, si un jour tu as l'occasion de rencontrer ma jolie maman, elle te dira que quand j'étais petite, je manquais jamais l'occasion de tenir un stand à une kermesse, de faire une brocante. J'ai toujours une anecdote que je ressors tout le temps. Je me souviens, à l'époque, j'ai grandi en région parisienne, je coupais les fleurs de la résidence et j'allais les vendre au voisinage. Je me suis évidemment fait disputer par mes parents et le gardien, mais voilà, j'avais toujours ce côté rendre d'une activité, monétariser une activité. Enfin, j'avais toujours en tête, je sais pas, ça doit être mon petit côté forain,
ouais.
Voilà quoi. Et du coup, et même en arrivant à Dubaï, je me souviens avec une amie. On avait une amie qui travaillait à Paris dans une marque de fringues, pour une marque de fringues. On lui avait acheté un petit stock. À l'époque, on avait fait une vente assez chouette dans nos villas, la maison. Enfin, voilà. Donc, ouais. Il y a toujours eu quelque chose comme ça que j'avais en tête. Et en fait, à la naissance de ma deuxième, donc Romy, voilà, là, je me suis vraiment lancée. Je pense que j'avais fait le tour au niveau de mon expérience à Dubaï. Mmh. C'était à peu près ma 4e expérience dans le corporate. J'avais déjà 10-12 ans derrière moi. Et, voilà.
Assez d'expérience pour
d'expérience,
toi.
Voilà. Bon. J'ai toujours voulu néanmoins passer par ces grosses boîtes et je regrette rien et j'en suis absolument ravie. Je le conseille à tout le monde parce que vraiment ça m'a permis de me structurer. Puis j'ai énormément appris et surtout en fait Dubaï c'est une région qui est très particulière au niveau du business, des différences culturelles. Enfin voilà, je dis toujours quand on sait travailler dans le golf, on sait travailler partout quoi. Donc voilà, j'ai profité de ce qu'on peut appeler mon congé maternité de ma deuxième pour bûcher sur mon business plan, etc., etc. Voilà.
Ok. Donc pour Caramel Hansen,
voilà.
D'où est venue du coup cette idée Caramel Hansen ?
Alors, je pense que déjà le côté retail m'a toujours passionnée. Hein. Je n'avais jamais en tête de monter une application où je suis pas du tout geek.
Ouais.
Voilà, c'est le monde du retail pour moi m'a toujours passionnée et c'est là où j'ai le plus d'expérience. Et puis, je pense qu'en fait, un petit peu naturellement à la naissance de ma deuxième, de Romy, je me suis rendu compte en fait assez naturellement qu'il manquait pas mal de mobilier pour enfants. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait les expatriés ne restaient plus un an ou deux, n'allaient plus forcément chez ICA, mais ils restaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc voilà, ils dépensaient dans leurs intérieurs.
Il y avait un besoin.
Voilà. Mmh. Donc, mon business model en cours de route a pas mal changé. Mais voilà, ouais. L'idée, c'était de ramener du petit mobilier chouette, sympa, à la française, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et pourquoi ce nom, Caramel Hansen, ça vient d'où ?
Ah, Caramel Hansen, c'est une nuit de brainstorming avec mon partenaire. Non, je rigole, c'est toujours... c'est assez drôle. Mais non, très simplement. Alors, Caramel... parce que c'est un bonbon qui est gourmand, qui est doux, qui a une connotation assez chouette pour les enfants. J'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et sun, parce que je ne peux malheureusement plus vivre sans le soleil. Et ça, c'est une certitude. Et puis, c'est vrai qu'on est pas mal sur la tendance des doubles, des Caramel Hansen, des Adig & Voltaire. Enfin, voilà, je trouvais que ça sonnait bien. J'ai deux filles.
Ouais.
Voilà. C'était, okay. C'était sympa.
Très bien. Et une question que je voulais te poser aussi, c'est quand on crée un business et qu'on n'est pas finalement dans son pays d'origine et qu'on est susceptible de repartir un jour, est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose de savoir est-ce qu'on se lance ou pas puisque voilà, le business va peut-être être amené à ne pas continuer finalement dans le temps. Est-ce que ton entourage a eu une opinion par rapport à ça ? Peut-être tes parents qui voulaient te voir revenir ou même ton entourage ici ?
Alors, maman veut me voir revenir tous les jours, hein, ça faut le savoir quand même. Je crois qu'elle a un peu perdu espoir. Comme je dis souvent, je me sens pas vraiment expatriée. Après 12 ans, je sais pas si on peut vraiment parler d'expatriation. Voilà, en fait, j'ai atterri à Dubaï il y a 12 ans. J'ai ma famille, mes amis qui sont également ma famille de cœur et mes enfants. Et donc, en fait, si tu veux, quand j'ai monté le business, ce n'était pas vraiment une question. Et même encore à ce jour, si demain on est amené à bouger ailleurs ou tout simplement rentrer en France, voilà, il y a des solutions. On est en 2020, Internet, enfin...
Ouais.
C'était pas
une question.
Non, ouais. Non, mon mari étant franco-grec, on est une famille assez multiculturelle, donc si tu veux, on n'a pas la corde au cou en se disant vite, 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 faut qu'on rentre à Paris. Enfin voilà, personne nous attend ou voilà. Donc non, c'était pas un sujet.
D'accord, très bien. Une question aussi. Alors concrètement, j'ai envie de savoir. Donc, tu as créé ta société, donc Caramel & Son. Déjà, donc tu t'es lancée seule ou avec tu avais une associée. Tu as une associée, il me semble.
Alors, comment ça s'est fait? En fait, j'ai un de mes meilleurs copains, un de mes premiers couple d'amis que j'ai rencontré à Dubaï, ouais. Qui lui-même est dans l'entrepreneuriat depuis toujours. Un peu le même profil que moi, à la différence qu'il n'a jamais mis les pieds dans une vraie entreprise, entre guillemets. Et je sais pas, j'avais toujours dans le coin de la tête, tiens, dis donc, lui, un jour, je vais lui proposer un truc. J'avais beaucoup, beaucoup de respect pour tout ce qu'il faisait. Ça me challengeait, ça m'excitait. Ça a toujours été dans le coin de ma tête. Et c'est vrai qu'après 7-8 ans, à force de parler de ça avec mon mari, lui aussi, il a commencé vraiment à me dire, bon, écoute, lance-toi.
Il est entrepreneur, ton mari, ici,
non,
ou pas du tout ?
Non, il n'est pas entrepreneur, mais je pense qu'il en avait marre de se faire réveiller par sa femme à 4 heures du mat. qui lui posait des questions en lui disant je vais faire ça. Donc il m'a dit bon écoute, ça suffit, tu te lances. donc je suis allée rencontrer mon ami qui aujourd'hui est devenu mon associé, comme on dit, mon silent partner, avec qui j'ai cassé ma tirelire et celle de mon mari, donc tous les trois. Et ensuite, cette personne, on va lui donner un prénom, Paul, était déjà donc entrepreneur. il m'a proposé vraiment de m'installer dans sa structure, de bénéficier de sa structure. C'est débile, hein, mais ne serait-ce qu'un compte à Ramex, c'est à s'arracher les cheveux pour en créer un compte en banque, un driver. Enfin voilà, donc j'ai vraiment, vraiment eu la chance les 3-4 premiers mois de bénéficier de tout ça, d'une infrastructure déjà prête. J'avais pas encore trop le schéma en tête. Est-ce que c'était du online? Est-ce que c'était une vraie boutique en propre? Voilà, donc ça m'a permis, en fait, si tu veux, pendant 3-4 mois, de me dire, voilà, c'est ça que je veux faire. Je bosse sur mon business plan. Et puis, on y va, on se lance. Quand la boutique est arrivée, donc qui était le premier pilier de Caramel & Son et de mon business model, j'ai commencé à me dire, bon, là, Olivia, ça commence à être sérieux.
Donc, c'était d'abord une boutique et après un site internet.
La boutique et le site internet ont été live plus ou moins
en même temps.
Mais après, j'ai une autre casquette, en fait, de distributeur. Voilà, okay. Qui, finalement, aujourd'hui, est quasiment 60 à 70% de mon temps. Mais du coup, au moment du retail, de cette ouverture de la boutique, je me suis vraiment dit que j'avais peut-être pas suffisamment d'argent que ma tirelire, j'avais peut-être vu un peu juste. Et puis voilà, beaucoup de choses à faire, à gérer. Et ça s'est fait naturellement. À l'époque, j'ai une amie qui est rentrée, qui était là, qui cherchait une opportunité. Enfin voilà, je me suis dit que ça collerait bien. Et j'avais donc deux silent partners, qui étaient donc mon mari et Paul. Et puis mon autre associé à l'époque est rentré dans l'aventure et j'ai travaillé avec elle pendant 3 ans. Voilà, long story short, aujourd'hui, cette même personne n'est plus là. Elle a été relocalisée en France et elle est sortie de l'aventure. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment de nouveau toute seule. Mais bon, voilà, la machine est lancée, j'ai du staff.
D'accord.
Et donc, voilà.
Et est-ce que tu as fait appel à des prestataires ou
Alors, qu'est-ce que tu entends par prestataire?
Par des personnes extérieures
Du coup, sans rentrer trop dans les détails légaux qui sont finalement, qui peuvent paraître complexes, mais qui sont très faciles, tu sais que pour en fait, donc, monter une boîte ici, notamment locale, il faut donc un sponsor émirati. Donc voilà, j'ai donc un sponsor qui s'appelle Mohamed. Voilà.
Obligatoirement.
Obligatoirement. Voilà. Bon, écoute, pour être très honnête, je le vois 3 fois par an. Il est absolument adorable. Il est là pour le coup vraiment pire que Silent. Il joue un rôle de ce qu'on appelle à Dubaï un PRO. Il est là vraiment pour m'aider pour les visas, la création d'entreprise, etc. Et puis après, en fait, petit à petit, ça allait très vite, quoi. Ça allait très très vite. Grâce aussi à mon partenaire Paul, à mon mari, à mes contacts. Ça faisait déjà quand même 7-8 ans que j'étais à Dubaï.
Tu connaissais le marché.
Oui, de bouche à oreille. Tu as besoin de quelqu'un pour un site internet, tac, tu trouves tout de suite. Je voulais ouvrir donc finalement une boutique. Hop, j'ai recherché dans tous mes contacts du passé. J'ai trouvé le mall. Enfin, c'est allé vite, quoi.
D'accord, c'est allé vite grâce au réseau aussi que tu t'étais constitué. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient le même projet, les avantages et les inconvénients de créer une société à Dubaï par rapport à la France, par exemple?
D'accord, voilà. Bon, malheureusement, Alors, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, je n'ai jamais, moi, travaillé en France. J'ai travaillé en Angleterre et à Dubaï. Donc, je ne sais pas trop pour la France. Néanmoins, de tout ce que j'ai entendu, c'est vrai que... Alors, je me trompe peut-être encore, hein, mais c'est vrai qu'en France, il y a un vrai soutien au niveau des startups, des entrepreneurs, qui finalement, ici, n'est pas encore complètement mis en place. Donc, Dubaï... c'est vraiment une place dynamique où on peut surfer sur ce côté entrepreneur. On dit toujours qu'il y a tout à faire et sincèrement, c'est vrai. Moi, je dis toujours en plus qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il ne faut pas commencer à regarder le voisin en se demandant si oui ou non je vais le faire. En fait, voilà, entreprenons, rendons de Dubaï une chouette et dynamique place. Et voilà. Maintenant... c'est sûr que Dubaï, avant même d'avoir vendu un coloriage dans une boutique, tu as une avancée de trésorerie qui est assez importante. Voilà, c'est un peu le souci de Dubaï, c'est qu'il faut tout de suite... la main-d'œuvre est peut-être pas très chère, mais il ne faut pas oublier qu'il faut leur payer leur visa en avance, leur sécurité sociale, leur billet d'avion. Il faut également payer donc, ce fameux sponsor local. Il faut payer
qui
sa trade license.
Qui est de combien?
Alors, ça dépend des sponsors. Et puis là, en ce moment, les prix ont beaucoup diminué, mais ça peut aller, oui, entre 15 000 à 30 000 dirhams juste pour une personne qui met une signature sur un papier. Donc, c'est vrai que, voilà, tu as tous les papiers avec les diverses autorités. Voilà, donc, si tu veux, on va pas rentrer dans le détail, mais avant même que ton business fonctionne, il y a une avancée de cash flow qui est assez importante. Et ça, c'est un peu ce que je reproche à Dubaï. J'écoute beaucoup de podcasts sur la prise de risque, l'aspect monétaire, etc. Mais bon, faut quand même mettre un peu d'argent sur la table.
Et toi, personnellement, comment tu as financé Caramel & Son?
Alors, mon mari vous dira l'inverse, parce que je suis en panier percé. Mais en fait, à la fin des Stellodaires, j'ai la chance d'avoir eu ce qu'on appelle mon end of service. Après 5 ans, ça faisait un petit montant sympathique. J'avais des stock options que j'ai revendues. Donc ça, c'était pour ma part. Et puis après, je pense que mon mari et mon copain Paul avaient leurs finances personnelles. Et voilà.
D'accord. Très bien, merci. Quelle est aujourd'hui ta cible sur Caramel & Son ?
Alors ma cible, elle a un petit peu changé. C'est vrai qu'au départ, comment dire, ma cible, dans un monde parfait, j'aimerais que ce soit plutôt pour les Émiratis, dans le sens où ce sont quand même eux qui habitent à Dubaï et qui sont le moins susceptibles de partir et de quitter le pays.
Ouais.
Accessoirement, c'est également eux qui ont le meilleur pouvoir d'achat. Donc pour capitaliser et que la boîte vraiment soit pérenne, l'idée, c'est pas de focusser sur la petite famille d'expats français qui est là 2 ans, qui va m'acheter 3 coloriages, et voilà, mais plutôt de se dire que voilà, une famille d'Émiratis peut me commander du papier peint, des choses comme ça. Maintenant, ça dépend forcément avec le bouche à oreille. Étant française, j'ai une énorme population française qui achète au magasin. J'ai évidemment toutes mes copines qui sont mes premières supportrices. Donc voilà. Mais c'est vrai que la tendance est pas mal inversée. Ma boutique plaît. En plus, là où elle se trouve, à Mercato, elle est dans un quartier assez local. Donc, les Émiratis sont assez
Et est-ce que tu as dû adapter justement tes collections au goût des locaux ou...
Oui.
Ouais.
Ouh là 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 là. Alors en fait, c'est pareil. C'est mon business model de toute façon a énormément changé. Si tu veux, au début, oui, voilà, je voulais apporter des jolies choses, un peu avec la touche française, etc. Ouais. Évidemment, il y a divers facteurs qui ont fait que j'ai dû un peu changer mon assortiment. On est passé du mobilier plutôt à l'accessoire.
Ouais.
Le mobilier, c'est quand même excessivement cher en coût de transport. C'est beaucoup de SAV. Et puis sur une petite superficie comme j'avais à l'époque, c'était compliqué. Donc je suis plutôt passée sur l'accessoire. J'avais beaucoup d'accessoires de petits créateurs français ou même d'ailleurs européens en général. Sauf que ces petits créateurs, enfin j'appelle ça petits créateurs, ça a un côté plutôt au contraire mignon et respectueux, n'ont pas forcément, ne me procurent pas forcément les mêmes marges que des plus gros. Et malheureusement ne plaisent pas forcément à la population que j'essaye de targeter. Donc sans pour autant devenir, ça je me l'interdis, une boutique, on va dire, bling, j'ai dû quand même un petit peu adapter. Après, chacun, si tu veux, chacun sa philosophie. J'ai des années de marketing dans la tête, des personnes qui se battent pour imposer et éduquer le consommateur à leur propre concept. Moi, je pense que je sais pas, j'avais pas le temps, j'avais pas les finances, et donc je me suis dit c'est plutôt moi qui vais m'adapter au consommateur. Donc c'est vrai, je dois avouer qu'il y a des produits dont je ne suis pas fan. On ne dira pas lesquels, mais non, quand même, je rassure, la 99%, j'adore. Mais
c'est super que ce que tu fais, j'ai regardé, j'adore.
Très vite, Caramel & Son, donc c'est devenu une boutique. Après, j'ai eu quelques petits pop-up stores à droite à gauche, notamment Galerie Lafayette, dans une jolie villa sur Alloisseul chez Omensoul. J'ai fait pas mal de partenaires avec plein de gens vraiment super. Mais c'est vrai que le retail est très coûteux à Dubaï, comme je disais là au tout début.
Ouais.
Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des marques qui se vendaient plus que d'autres. Donc je me suis dit et si je leur donnais pas un peu plus de mon attention. Et en fait, j'ai contacté 5 marques qui sont toutes plus ou moins qui sont toutes européennes, et en fait j'ai pris leur distribution, l'exclusivité. Donc ça, c'est vraiment ma deuxième casquette qui aujourd'hui, je dirais, me fait vivre.
D'accord.
Voilà, donc j'ai 5 marques que je distribue partout dans le Golfe et chez des très beaux retailers, des très beaux clients. On est présent au Louvre d'Abu Dhabi, on a un joli corner aux galeries, on a plein de sites online qui se développent de plus en plus, notamment Mum's World, qui est vraiment mon plus gros client.
Ah oui, je connais.
Voilà, ouais. Je pense que maintenant, voilà, je laisse les autres monter des magasins. et moi, je vais aller leur vendre mes produits. Comme ça, j'ai toujours un pied là-dedans, quoi.
Ouais. Et revenons au début pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient des conseils. Est-ce que tu as des conseils pour trouver tes premiers clients, en fait, quand tu te lances à Dubaï ? Toi, comment tu as procédé ?
Alors, la communauté française est assez chouette pour ça, je dirais. On est à la fois petite et grande. Et je trouve que... Qu'on s'entraide quand même pas mal ici à Dubaï, et donc le bouche à oreille. Sincèrement, ouais. Même quand j'étais dans mes grosses boîtes, c'est le bouche à oreille, c'est toujours ce qui prime. Dubaï, ça reste un village hein, quand même. On se connaît tous au sein de chaque communauté, donc ça a été assez facile en fait. Après, j'ai été pas mal soutenue, enfin même bien soutenue par des très beaux médias aussi, français ou pas d'ailleurs.
Dubaï Madame.
Tout à fait. Dubaï Madame que j'adore. Dubaï Confidential qui est plus anglophone. Plein de blogueuses, la magie d'Instagram, et puis les copines, les copines, quoi.
Ouais.
Ça a été assez rapide, en fait.
Super. Et est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que oui, tu es amenée à travailler avec des Émiratis ?
Oui, tout à fait. Alors... d'un point de vue retail, j'ai une bonne petite clientèle d'Émiratis qui me connaissent bien, qui sont absolument adorables. Au niveau de la distribution, pas tant que ça. Mais typiquement, j'ai une cliente il y a 3 mois déjà qui est venue me voir en me disant « Écoute, voilà, j'adore le style Caramel & Son, j'ai ma maison... Je veux absolument, je suis en train de me faire construire ma maison à Nadalshiba, je veux absolument que tu m'aides pour la chambre de mes enfants, etc. etc. » Donc moi, évidemment, je lui ai dit aucun souci. On propose des services de design consultancy. C'est vraiment un autre métier, donc, et puis je n'aurais pas la prétention de dire que je suis archi. Néanmoins, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas... On s'adresse à des personnes qui n'ont pas le temps, qui ont un bon pouvoir d'achat et forcément... Voilà, une petite jeune femme qui arrive et qui les aide, elles sont vraiment au top et elles adorent ça. Et du coup, en fait, cette villa s'est transformée de... On est passé de 3 chambres à toute la villa. Et on a récupéré la villa de la sœur. Donc là, depuis 3 mois, je suis sur un full-time job d'archi, que je ne suis pas. mais voilà, ça se passe hyper bien, ça se passe très très bien. C'est une famille d'Émiratis qui est absolument adorable.
Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur le travail avec les Émiratis ?
Oui. C'est marrant, ils n'aiment pas les représentations... animal, enfin, tu sais, c'est un peu à la mode, ces têtes d'animaux.
Ah oui, je vois très bien.
Ouais, voilà, Donc, qu'on met dans les chambres d'enfants en feutrine. Alors ça, c'est un non tout de suite.
No go.
Voilà. Oui, des petits détails comme ça, des couleurs, des détails. Après, cette famille, notamment cette jeune femme, voilà, on est là pour lui faire plaisir, etc., mais on lui a évidemment quand même dit que si elle était venue nous contacter, c'était aussi pour avoir aussi un peu notre style, notre touche et pas lui faire le palace d'Abu Dhabi, quoi. Voilà.
Et plus sur les méthodes de travail ou des petits trucs
Alors, ils ont une méthode de travail qui me convient parfaitement, c'est qu'ils sont toujours en retard.
Ouais.
Donc, comme je le suis aussi. Alors, je ne sais pas si je suis devenue... Or,
oui,
enfin, parce que c'est... c'est inné. Encore une fois, ma petite maman dirait que c'est inné. Non, sincèrement, ils sont quand même assez relax, quoi.
Ouais.
Ouais. Ce qui est pas mal, en fait.
Ouais.
Bon, quand il s'agit de... Je crois que c'est une région qui est quand même assez relax. Bon, c'est sûr que quand on parle des finances et qu'on attend son chèque, c'est un petit peu trop relax évidemment. Mais j'avoue que le timing pour eux n'est pas forcément un souci, quoi.
D'accord. aujourd'hui, Caramel & Son a l'air de très bien fonctionner. Mais j'imagine que tu as dû rencontrer des difficultés. J'aimerais que tu nous racontes et quels enseignements tu as pu en tirer.
Alors, bon, Caramel and Sun fonctionne. Je vais enlever le trait.
Ouais.
voilà, j'ai envie d'être honnête sur ce podcast. Et puis voilà, je suis quelqu'un de toute façon sans filtre pour ceux qui me connaissent. Voilà, Caramel & Sun fait un très bon chiffre d'affaires. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, voilà, les difficultés, c'est tout à fait la gestion du cash flow. Les coûts fixes qui sont assez exorbitants dans le retail. Les soucis de paiement en ce moment. Je pense que vraiment le cash flow c'est le nerf de la guerre et je pense que bah voilà quoi la plus grosse erreur que j'ai faite c'est évidemment de alors est-ce que c'est une erreur est-ce que c'est voilà c'est en fait c'est ma gestion du cash flow au quotidien qui est très complexe parce que l'envie de ramener des nouveautés d'acheter du stock versus tout de suite payer mes suppliers et en même temps s'il y a pas de nouveautés ici on est dans un pays qui est drivé par les nouveautés bah est-ce que les gens vont venir enfin voilà donc c'est un catch 22, c'est un cercle vicieux, c'est toute cette gestion du cash flow. Et je dirais que ma deuxième erreur, parce que des difficultés, j'en ai tous les jours. Hein, ouais. J'ai envie de fermer ma boîte tous les jours, donc je rigole, mais c'est d'avoir, je pense, voulu ouvrir Caramel & Sun façon modèle corporate, si tu veux. J'ai ouvert Caramel & Sun comme j'aurais ouvert, comme j'aurais fait un événement corporel. J'ai pris tous mes acquis et tout ce que j'ai appris dans mes grosses boîtes et je les ai, j'ai utilisé pour ouvrir Caramel & Sun. Je pense que je suis allée trop vite et aujourd'hui, alors de dire que j'en paye les conséquences, c'est un petit peu loin, mais voilà, j'aurais peut-être dû être un peu moins gourmande et voir, c'est marrant d'être moins ambitieux, c'est horrible un peu, mais bon, voilà, d'y aller peut-être plus petit à petit. Mais voilà, là, la situation est en train de se rétablir. Les difficultés du quotidien, c'est la gestion humaine. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 4 employés sous ma payroll. Donc, les difficultés internes, faire plaisir aux consommateurs, y a un côté SAV. J'ai mes end-users qui est toi, moi, les consommateurs. J'ai aussi tous mes retailers pour qui je fais ma distribution. Oui, des difficultés humaines, des difficultés financières, des difficultés logistiques. Quant à ton shipment qui est stuck à la douane à Jebel Ali, au port de Jebel Ali, parce que je sais pas, il y a un truc qui leur plaît pas et voilà, c'est sans fin quoi. Mais non, c'est cool. C'est cool. Je suis toujours vivante. d'être seule là forcément depuis un an, ça commence à
bien être sûr, compliqué. Ouais. Comment aujourd'hui tu envisages l'avenir de Caramel & Sun ? Quels sont les next steps ?
Je pense que pour le moment, on a observé un frein dans le retail à Dubaï. J'ai pas envie de trop prendre de risques. Je l'ai fait, je suis contente. Ça m'a ouvert énormément de portes, mais je crois que je vais mettre un petit peu le retail de côté. Et voilà, j'ai vraiment envie de me focus sur la distribution, le online, et puis voilà, ouvrir d'autres territoires. J'ai quelques boutiques, j'ai quelques boutiques qui travaillent avec moi en Saoudi, à Koweït, au Bahreïn, mais c'est pas suffisant. Donc ouvrir un petit peu l'étranger au niveau de la distribution. Et puis prendre d'autres marques aussi en distribution, c'est chouette. Là, j'en ai 5. J'aimerais bien en prendre 2 nouvelles par an. En fait, je pense que le retail, c'était un peu mon bébé, c'était un peu ma passion, c'était un peu le côté fun. Mais finalement, je crois que je me retrouve plus dans la distribution où voilà, je reprends une casquette de commercial et ça me botte bien, quoi.
D'accord.
Bon, maintenant, si t'as 1 million de dollars à investir, si tu veux, on discute.
Avec du recul, puisqu'on a parlé des difficultés tout à l'heure, qu'est-ce qui te rend la plus fière dans cette aventure ?
Je crois que ce qui me rend la plus fière, c'est la dimension humaine, c'est mon petit côté cœur d'artichaut là. J'ai mes staffs en fait. Depuis le premier jour, ils sont avec moi en fait. J'ai quatre employés qui ils m'ont jamais lâché en fait. Et je leur crie dessus tous les jours, mais je les adore en fait. C'est ma famille. Mmh. Enfin, je peux partir 2 semaines en vacances, je sais que ça roule. Bon, je suis évidemment scotchée sur mon téléphone, mais bon, quand on est entrepreneur, je crois qu'on a ça dans le sang.
C'est le cas.
Mmh. Ouais, je suis assez fière de me dire que voilà, on est une petite famille, ils ne m'ont jamais lâchée. Je touche du bois, mais ça roule. Je pense qu'on se respecte. Et je suis contente. Voilà, après, ma deuxième fierté, c'est de me dire que je l'ai fait. En fait, je l'ai fait. J'ai été reconnue. Enfin, Caramel & Son a été reconnue via deux awards pour la meilleure entreprise start-up de l'année. Voilà, mes copains ne cessent de me complimenter. Donc, pour moi, c'est...
Ouais.
Il n'y a que ça qui m'importe. Les autres, je m'en fous. Mais bon,
les amis,
voilà.
C'est Pierre.
Je l'ai fait, quoi. I did it.
Super, bravo. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as un sentiment différent de Dubaï qu'au moment où tu es arrivée ?
Ouais, carrément. Ouais. C'est marrant, bah, justement, on en discutait au début. Là. Ouais, j'ai vraiment le sentiment d'avoir eu 2 vies à Dubaï. Déjà, j'habitais pas où j'habite aujourd'hui. J'habitais en appartement. On n'avait pas d'enfants. On avait un peu une vie de bachelor. Et on était tous les deux salariés. Et puis bah voilà, ma deuxième vie, ça a été mes enfants. J'appelle Carmen Son mon troisième bébé. Et, ouais, j'ai eu vraiment 2 vies quoi. Je dirais qu'il y a eu. C'est pas tant avant et après les enfants, c'est le avant et le après, enfin le avant et le pendant Caramel & Son. Ouais, vraiment, ouais.
Pour parler un petit peu plus de ton perso, donc on en parlait tout à l'heure, tu as 2 petites filles qui sont nées à Dubaï.
Oui, tout à fait.
Pour les futures mamans qui nous écoutent, comment tu as vécu ces grossesses à Dubaï ? Comment ça se passe ?
Écoute, alors les grossesses, c'était là, j'ai accouché à Paris en fait, la première, parce que je préférais, c'était ma première grossesse, mais ma gynéco sur place a été absolument parfaite, et du coup, Romy qui est arrivée plutôt tout de suite après, est née à Dubaï, et ça s'est vraiment bien passé, enfin... Je pense que quel que soit le pays, finalement, c'est quand même le docteur qui importe. Et,
ouais,
très bien, quoi.
Ça coûte cher ici, les...
Ouais, c'est ça coûte cher, oui.
C'est Dubaï.
C'est le petit bémol, effectivement.
Ouais.
Il faut d'abord passer à la caisse avant d'accoucher. ouais, il faut quand même... Bon, nous, on a une assurance privée, mais ouais, il faut quand même se renseigner, quoi.
Et comment tes filles se sentent aujourd'hui à Dubaï ?
Bien. Mes filles ne mettent pas de chaussettes depuis leur naissance. Donc, je crois qu'elles aiment ça. C'est des petits mouglis. Ouais, les enfants, c'est... Il y a plein d'a priori sur Dubaï. J'ai été la première à dire que, voilà, Dubaï ceci, Dubaï cela, mais...
Les valeurs...
C'est... On peut dire tout ce qu'on veut sur Dubaï, mais un endroit où il fait beau toute l'année, où les enfants sont en sécurité, ils peuvent jouer dehors. J'ai pas besoin de fermer ma maison. J'aurais peut-être pas le dire sur le podcast, mais voilà, ça n'a pas de prix, en fait. Donc, du soleil toute l'année, se recréer une petite famille. Je sais pas, je connais... Bon, j'ai pas mal voyagé, mais je connais pas tous les endroits non plus, mais... Sentiment de sécurité, et c'est chouette quand même. Ouais. Bon, on verra quand elles auront 17, 18 et qu'elles voudront faire leur première connerie. Hein, mais
merci beaucoup. Maintenant, on va passer à quelques questions sur Dubaï de manière générale. J'aimerais que tu me racontes un souvenir marquant à Dubaï.
Alors, un souvenir marquant... C'est marrant, j'avais été invitée par une amie qui travaillait pour les écuries de Cheikh Mohamed à une course d'endurance où en fait je me suis retrouvée avec donc mon mari et un copain dans la voiture, notre 4x4, à suivre une course d'endurance où en fait Cheikh Mohamed et son fils Cheikh Hamdam étaient littéralement à 2 mètres de nous. Mmh. Et on les suivait, donc il y avait toute la famille royale qui les suivait en voiture, et on faisait partie de ce convoi. Et c'était hyper impressionnant de alors bon, encore une fois, on cautionne ou on cautionne pas le chèque, mais je me disais à l'époque que j'imaginais pas Hollande ou Sarkozy à cheval. Et moi, le suivant avec ma Twingo. Et je me disais, c'était quand même assez dingue de se dire, voilà, je suis en plein milieu du désert, j'ai Cheikh Mo, comme on l'appelle, et son fils qui sont en train de... Surtout que lui, il est plus tout jeune. Ouais, j'avais trouvé ça beau, en fait. Ouais, c'était... Ouais, c'était chouette, c'était très chouette.
Qu'est-ce que tu aimes le moins ou qui te surprend à Dubaï ?
En fait, on en parlait tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que Dubaï, ça a les avantages. En fait, oui, c'est chouette. C'est un petit monde, une petite communauté, mais ça peut aussi avoir ses défauts. Enfin, voilà, ça reste quand même tout petit, et que ce soit d'un point de vue business ou d'un point de vue relations humaines. Voilà, parfois, sortir un peu du pays, ça fait pas de mal. Ça peut être un frein, parfois, je trouve, pour monter un business, monter un concept.
Parce que tout le monde se connaît, en fait.
Oui, un peu, ouais. Ce qui est chouette quand tu tombes sur des bonnes personnes, qui est d'ailleurs la majorité de Dubaï. Mmh. Hein. Mais voilà, parfois, un peu un sentiment, je sais pas, quand tu reviens d'un voyage, dans n'importe quelle autre capitale, je sais n'importe quoi, Londres, Paris, Singapour, voilà, les grandes places. C'est vrai que quand tu rentres à Dubaï, c'est un peu... voilà, c'est un peu suffocant. Ça, c'est le truc que parfois, je dis toujours, Dubaï, il faut, tous les 2-3 mois, faut quitter le territoire, ne serait-ce qu'aller à Oman, voilà, voir un petit peu autre chose. Et puis ce sentiment de passer des heures et des heures et des heures dans ma voiture, quoi. Moi qui suis... plutôt parisienne, j'avoue que j'ai encore du mal à m'y habituer.
Moi aussi, voilà. Ça fait 2 mois.
C'est comme ça.
Et je vois la différence. Qu'est-ce que tu aimes à Dubaï, au contraire ?
Le soleil.
Le soleil.
Ouais, le soleil, ce sentiment de week-end.
En vacances.
De vacances en week-end, pardon. L'accès au sport super facilement et pas forcément cher, en fait. C'est un peu la ville, c'est un peu Miami Beach, c'est un peu LA. Enfin, c'est chouette. J'aime bien le soleil.
Est-ce qu'il faut parler arabe pour travailler à Dubaï ?
Non, faut pas parler arabe. Vu mon niveau d'anglais, je suis même pas sûre qu'il faille parler anglais. Non, on a toujours ce complexe de petit français qui sait pas forcément parler anglais, mais non, l'idée c'est de se faire comprendre, et l'arabe, non, c'est un plus.
Dans quel quartier as-tu décidé de t'installer et pourquoi ?
Alors, on a habité dans un premier temps donc en appartement à la Marina, et ensuite, à la naissance des enfants, on est venu s'installer ici au Lakes, parce qu'on aimait bien, déjà on avait des amis qui y étaient, et puis on aimait bien ce sentiment communauté, c'est un peu contradictoire parce que je dis pas forcément toujours bonjour à mes voisins. Mais voilà, de se dire que on peut tout faire à pied, à vélo, il y a de la verdure, c'est un peu notre Wisteria's Lane. Alors il y a les deux écoles, hein, il y a ici, et puis il y a toute l'autre partie de Dubaï, Jumeirah, etc. Donc on a chacun nos qualités, nos défauts. Puis l'école des filles est juste à côté, donc non, c'est top.
Oui, je l'ai vu en venant. Quels sont tes endroits préférés à Dubaï ?
Mes endroits préférés à Dubaï, alors pour sortir, il n'y a pas de sujet, le Chocho, où j'y traîne mes pattes depuis 12 ans. Bar, on va dire, oui, bar, boîte de plage, plutôt relax. Après, pour choper l'éternel, pour choper et déjeuner l'éternel comptoir 102, une de mes meilleures amies a aussi un concept store qui s'appelle The Den sur Alloisseul, qui est génial pour la déco. Omen Soul sur Alloisseul, il y a également une partie fashion. Le Courtyard, là, le Courtyard, oui, j'allais oublier le Courtyard qui, depuis 6-7 mois, a complètement changé. C'est génial. Je suis moins mall. Bon, on est inévitablement obligé d'y aller. J'allais évidemment oublier Mercato Mall, où j'ai quand même ma boutique. J'y vais tous les week-ends. C'est un mall à taille humaine et qui est très lumineux. Donc c'est chouette. Voilà, mais c'est vrai que je crois que oui, après les restos, mon mari étant grec, on se fait beaucoup de restos grecs. J'ai pas mal de petites cantines, Alcercal, et puis en fait, mes endroits préférés, c'est chez les copains, quoi.
Ouais. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expatriation ?
Oh là là, je leur dirais qu'il y a tellement de choses à faire à Dubaï, qui se lancent. Sincèrement, quel que soit le domaine, il y a tellement de choses à faire. Vous voulez être prof de yoga, mais soyez prof de yoga. Vous voulez faire des podcasts, faites des podcasts. Ne regardez pas le voisin, allez-y, lancez-vous. Il y a tout à faire. Et je pense que c'est comme ça que ça va attirer du monde. Et c'est déprimant quand je vois les malls qui sont vides. Non, il faut rendre vraiment de Dubaï, faut le rendre de plus en plus dynamique.
C'est pour ça que je crée ce podcast.
Ouais, exactement, c'est génial. Franchement, regardez pas le voisin, foncez, et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je me fais l'avocat du diable, parce que c'est ce que mon mari me dit tous les jours. Voilà, vous l'aurez fait, et c'est cool, quoi. J'ai eu pas mal d'amis qui m'ont soutenue ces dernières 2 années notamment, parce que je pense que j'en avais pas mal besoin, et certains ont été beaucoup plus proches et à mon écoute. Et voilà, lancez-vous, c'est en échouant qu'on apprend. Et voilà quoi.
Merci beaucoup Olivia.
Ouais, je te remercie.